France Culture.
h13h30, les midis de culture. Marie Sorbier.
Bienvenue à tous dans les midis de culture. À 13h, je recevrai la romancière Anne Serre pour ses carnets qui viennent tout juste de paraître chez Verdier, mais dans les midis. Vous le savez, nous ouvrons le bal par la critique sur notre carnet aujourd'hui, deux recueils de nouvelles qui partagent une écriture de la violence où le lecteur, bien secoué, se cogne au réel. Knock and Stiff Ohio de Donald Ray Pollock, apparu aux éditions Albin Michel, et Mexico Médée de Dalia de la Cerda aux éditions du Sous-Sol. Avec moi aujourd'hui, deux chantres de la forme courte, Céline Duchesnet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes autrice de documentaires et chroniqueuse dans l'émission Mauvais Genre sur France Culture, et Thomas Stélandre, bonjour.
Bonjour Marie.
Vous êtes critique littéraire et journaliste à Libération, bienvenue à tous les deux. Alors nous commençons avec Knock and Stiff Ohio, paru en 2008 aux États-Unis, mais qui vient de paraître en français dans une traduction de Philippe Garnier chez Albin Michel. C'est le premier recueil de nouvelles de Donald Ray Pollock, composé de 18 histoires, se déroulant dans un village réel de l'Ohio, où l'auteur a grandi. Il plonge le lecteur dans une Amérique rurale et déclassée, peuplée de personnages en marge, paumés, violents, dépendants, qui survivent dans un monde de pauvreté, d'alcool et de violence ordinaire. Alors le style de Pollock, vous allez l'entendre, est cru et éprouvant. Il brosse un portrait nerveux d'une communauté d'oubliés.
Un soir d'août, au Torch Drive-In, quand j'avais 7 ans, mon père m'a montré comment faire mal à quelqu'un. Il était bon qu'à ça. C'était il y a des années, quand aller au cinéma en plein air était encore une nouveauté dans le sud de l'Ohio. Il donnait Godzilla, et en première partie, un film de soucoupe volante à la con, qui montrait comment des moules à tarte pouvaient conquérir le monde. Ce soir-là, il faisait plus chaud que dans la chatte d'une grosse dondon. Et quand ils ont commencé à passer le dessin animé sur le grand écran en contreplaqué, le paternel était déjà dans tous ses états. Il n'arrêtait pas de rouspéter après la chaleur, tout en s'épongeant le crâne avec un sac en papier tout chiffonné. Il n'avait pas plu dans le comté depuis 2 mois. Tous les matins, ma mère mettait la radio sur KB98. Et écoutait Miss Sally Flowers prier pour un orage. Ensuite, elle passait dehors et fixait le ciel vide tout blanc qui recouvrait la combe comme un drap. Je la revois encore plantée sur cette herbe brune et cassante, à se dévisser le cou dans l'espoir d'apercevoir un malheureux nuage noir.
Bon qu'à ça, c'est du Beckett en fait dans le texte. Thomas Stélandre, un premier avis rapide.
Oui, ben on vient d'entendre un peu la poésie de Donald Ray Pollock. Il faisait plus chaud que dans la chasse d'une grosse dondon. Ouais. C'est, ça pose quand même une ambiance. Knock and Stiff, c'est effectivement le premier livre de Donald Ray Pollock. C'est sorti en 2008 aux États-Unis et c'est une réédition. Hein, c'était publié chez Buchet-Sastel en 2010. C'est un recueil qui est absolument génial et c'est un écrivain qui est très précieux, qui est capable de vous dégoûter, et la phrase d'après, de vous briser le cœur, quoi. C'est aussi un sacré personnage. Il a autour de 71 ans aujourd'hui. Il est venu à l'écriture sur le tard, parce qu'en fait, il a d'abord commencé par travailler pendant 32 ans dans une usine de pâte à papier, qui sentait très très fort l'œuf pourri. Et puis, à la cinquantaine, il s'est mis à l'écriture. C'est quelqu'un qui a à peu près jamais quitté l'Ohio et qui fait de ce territoire de naissance, son territoire de vie, son territoire d'écriture. Donc c'est peuplé d'affreux, de sales, de méchants.
C'est crasseux, hein ?
C'est vraiment crasseux et c'est en même temps formidable à lire et vraiment un merveilleux recueil, quoi.
Céline Duchesnet, pareil, peut-être un premier avis et puis peut-être dites-nous de quoi elle parle, ces nouvelles.
Alors moi j'ai adoré, je dirais déjà pour son côté totalement, je ne sais pas si ça existe ce terme-là, mais feel bad books, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, tout est tellement sombre, tout est tellement noir, tout est tellement crasseux, violent, désespérant que y a très peu d'échappatoire. Il y a quelques petites touches d'espoir, mais on descend tellement en bas que finalement même un ciel étoilé devient l'unique possibilité de s'échapper. Donc oui, c'est vraiment la description d'un territoire, d'un microcosme observé à la loupe. Il y a une carte d'ailleurs au début début du livre, qui pourrait nous faire penser à un guide touristique. Mais dans ces cas-là, si c'est un guide touristique, c'est vraiment le guide touristique repoussoir, où il ne faut surtout pas aller, parce que derrière chaque petite maison, chaque nom qui est marqué sur ce petit territoire, il y a une histoire atroce qui s'est déroulée. Donc, rien ne nous est épargné. Je dirais même jusque dans les liquides humains, jusque dans les humeurs, dans les glaires, les glavios, le vomi, le sang, le jus de chic. Et ce qu'on voit, c'est des personnes qui sont en prise avec le désespoir et avec leurs addictions et avec des modèles de vie qui ont été donnés ou par la société ou par leur famille, qui sont des modèles de vie qui enferment complètement, où on ne peut pas sortir de sa condition. Et d'ailleurs, on n'arrive même pas à quitter ce petit territoire, parce que même quand on a la possibilité de partir, on n'y arrive pas. Donc c'est vraiment une sorte d'hymne, je dirais, au désespoir. C'est pas évident à lire, c'est parfois très déprimant, mais c'est tellement bien écrit et c'est tellement ciselé qu'on y revient.
Alors peut-être Thomas Selland, sur le style justement, pourquoi c'est bien écrit et pourquoi c'est ciselé? Vous avez dit que c'était quand même un auteur précieux. Alors qu'est-ce qu'il y a de précieux dans cette écriture du désespoir?
C'est une écriture qui effectivement, je le disais, est capable de... C'est assez dégoûtant, c'est vraiment plein de senteurs, plein de... Voilà, on est vraiment pas très à notre aise. Et puis en même temps, au milieu de toute cette pourriture, il y a comme ça des petites fleurs qui émergent. Dans la première nouvelle, c'est un père alcoolique et son fils alcoolique violent qui emmène son fils dans un drive-in et il regarde le film Godzilla et le père emmène son fils pour aller aux toilettes. Il y a un autre père, un autre fils, ils commencent à se bagarrer et d'un coup le père violent est hyper fier que son fils d'un coup soit là à se bagarrer lui aussi et il lui dit dans cette nouvelle, la toute première, il lui dit « Tu t'es bien défendu », donc c'est le fils qui est le narrateur, « Tu t'es bien défendu », je me répétais encore et encore, « C'est la seule chose que mon père médite, que je n'ai pas essayé d'oublier. » Il y a comme ça des choses qui sont qui nous brisent le cœur, quoi. Et moi, je trouve qu'il arrive à osciller comme ça, à avoir cette espèce de double mouvement. Et on s'attend pas forcément à être ému dans cet univers-là et quand même à aimer ces personnages.
Est-ce qu'elles forment un tout, ces nouvelles? Est-ce qu'on peut les lire de façon disparate ou
Alors, moi, ce que je conseille justement, c'est peut-être de picorer un petit peu. Parce que c'est ce qu'on disait aussi, c'est que à la longue, on est un peu assommé. Nogdamsif, c'est assommelé, c'est vraiment frappe fort.
C'est-à-dire, c'est le nom du village,
oui.
C'est le nom de la ville, mais ça veut aussi, oui, si on détaille le mot, ça voudrait dire assommelé.
Et qui existe vraiment.
Le village, enfin la ville existe, oui.
Absolument, oui. Et d'ailleurs, en fait, il y a une histoire qui nous est contée dans une des nouvelles, c'est qu'en fait, la ville tient son nom du fait que, je cite, « deux bonnes femmes se sont crêpées le chignon pour un homme juste devant l'église. Une était l'épouse, l'autre la copine. Le pasteur en a entendu une dire à l'autre qu'elle allait l'étaler raide, knock her stiff. » Donc voilà. Nous, lecteurs, on est un peu aussi assommés, quoi. On est un peu toutes ces histoires de paumés, de camés, de miséreux. Parfois, c'est un petit peu difficile. Et on se dit que ça peut être un peu répétitif, parfois. Donc, une des solutions, ce serait effectivement peut-être de picorer un peu plus, de se dire, voilà, j'en lis une de temps en temps, peut-être je prends un feel-good book entre-temps, et puis je m'y remets, parce que peut-être que ça peut permettre d'apprécier un petit peu plus, quoi.
Céline, vous avez eu, vous aussi, la même sensation d'être un peu engluée dans cet univers-là ?
Ah ben, je pense qu'on est obligé d'être engluée face au destin de tous les personnages qu'on croise, et puis ce qui renforce aussi les choses, c'est qu'on se dit que l'auteur, Pollock, parle de choses qu'il connaît, puisque lui-même est né dans cette petite ville, qu'il a essayé d'y échapper, entre guillemets, en partant en Floride, en exerçant quelques petits boulots. Il y est retourné parce que son père lui a dit « je t'ai trouvé un boulot », donc dans cette fameuse usine de pâte à papier. Et on comprend aussi que c'est quelqu'un qui a lui-même connu toutes ses addictions. Et comme vous l'avez dit, Thomas, il est arrivé après la littérature sur le tard. Donc on a quand même le sentiment d'avoir presque une sorte de témoignage, de condensé de toutes les histoires atroce qu'il a pu entendre. Ce qui fait que est-ce qu'il faut en lire par petits bouts? Je ne sais pas, parce qu'en même temps, quand on lit tout d'un coup, on a aussi envie de relire. Pas pour se replonger dans la noirceur, mais c'est parce que dans certaines nouvelles, on retrouve des personnages qui sont apparus avant, et tout à coup on se dit, ah mais ce gamin-là, il me semble que j'ai déjà croisé quelque part, et ça permet tout à coup d'avoir un autre regard aussi sur le destin cruel des personnages qui nous sont donnés. Et je dirais, ce qui frappe aussi, c'est en effet l'écriture, et c'est pour ça qu'on n'est pas masochiste. Si on lit ce livre, c'est parce qu'il y a aussi autre chose, et il y a une forme de beauté aussi dans l'écriture, je dirais, dans les détails et dans le choix des détails. Par exemple, il y a une image qui m'a beaucoup frappée dans une des scènes d'ouverture d'une nouvelle qui est une nouvelle qui décrit en fait un couple qui est addict au crack et qui vit au crochet deux parents malades, et on parle d'un oreiller bosselé tout raide de sexe et de bave sèche. Et je trouve que, évidemment, l'image est horrible, mais l'image est tellement parlante pour montrer aussi l'endroit et dans quel état de détresse se trouvent les personnages.
Thomas Télandre, est-ce que c'est un livre qui parle aussi de l'Amérique ? Céline parlait de territoire, est-ce que c'est aussi un livre qu'on peut lire aujourd'hui quand on sait voilà, ce que devient l'Amérique de 2026 ? Est-ce que ça nous parle aussi d'une certaine type de population qui vit aujourd'hui aux États-Unis ?
Évidemment, enfin, je veux dire, c'est tout à fait éclairant à cet égard sur l'Amérique d'aujourd'hui. C'est aussi, pour le dire vite, Donald Ray Pollock, c'est un peu l'écrivain des rednecks, un peu comme lui parle beaucoup d'hommes. Ses personnages sont majoritairement masculins. On pourrait trouver l'équivalent chez Dorothy Allison, par exemple, qui elle a plutôt des personnages féminins. Et puis je me dis aussi qu'il y a quelque chose sur ce côté, finalement la forme sert le fond, parce que ce côté morcelé des nouvelles, ça nous raconte aussi cette espèce d'Amérique un peu divisée, et aussi pourquoi est-ce qu'on écrit des nouvelles. Je pense que là il y a quelque chose qui se raconte dans le fait que ce sont des vies brèves qui sont racontées, donc des textes courts, on n'a pas beaucoup de temps, et même ce côté répétitif dont on parlait, je veux dire, on n'arrive pas à sortir de ce territoire. Donc là, je pense que le recueil de nouvelles raconte ça à cet égard, c'est-à-dire textes courts, vie courte.
Céline Duchesnay, vous avez dit que quand même il y avait quelques endroits d'espoir, je ne sais plus quel était votre terme, mais en tout cas peut-être quelques horizons. Est-ce qu'il y a aussi parfois de l'humour pour contrebalancer cette violence frontale, où il nous la laisse telle qu'elle ?
Oui, il y a un petit peu d'humour très 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 noir, je dirais. Les petites touches d'espoir. Alors, c'est en effet un moment un personnage qui regarde par la fenêtre et qui voit un ciel extraordinaire. Ça peut être la dernière nouvelle qui a été ajoutée d'ailleurs, où à la fin, le personnage regarde le ciel et regarde les étoiles et il y a une forme d'ouverture. Il y a la dernière nouvelle initiale qui est devenue l'avant-dernière dans ce recueil, je trouve, est une nouvelle qui apporte de l'espoir, parce que c'est un personnage qui est aux Alcooliques Anonymes et qui, de par son parcours, donne de l'espoir, parce que ça fait 5 mois qu'il n'a pas bu, il va retourner voir son père qui est un monstre de violence, d'homophobie, c'est le père atroce et destructeur. Et je trouve que cette avant-dernière nouvelle nous montre aussi que certains personnages réussissent à se battre contre leurs démons, parce que sincèrement, je n'ai jamais vu autant de types de drogues possibles réunies dans un recueil. Et alors, il y a les drogues traditionnelles, mais il y a aussi tous les médicaments qui sont détournés. Par exemple, il y a des personnages qui sont à un stade de cancer vraiment ultime. Et d'autres personnages peuvent leur piquer leurs médicaments pour se shooter eux-mêmes. Enfin, et il faut aussi parler de la violence à l'encontre des femmes. Vous parliez de Dorothy Allison. Je trouve que l'analogie est intéressante aussi dans leur opposition. C'est que le traitement qui est fait aux femmes est un traitement de violence. Les femmes sont ou ne sont que des objets sexuels, et avec
Thomas Dodlin de la tête.
Prostituées, elles ont quand même pas une grande marge de manœuvre, mais pas plus que les hommes, hein, qui sont aussi enferrés dans un mode de relation. Tout le monde est coincé, en fait.
Peut-être un dernier mot là-dessus, Thomas.
Ouais, il y a une nouvelle où effectivement il y a une femme qui sort avec sa nièce, et la nièce devient un peu l'appât pour choper
c'est,
des mecs.
C'est vrai qu'il y a cette nouvelle-là.
Et là, je me suis dit, tiens, finalement, ça nous raconte quand même que les femmes sont des salopards comme les autres, un peu comme dans le Tarantino, vous voyez, bah, y a 8 salopards, et y a une femme parmi la bande, mais c'est pareil chez Donald Ray Pollock.
Non and Steve Ohio de Donald Ray Pollock vient de paraître aux éditions Albin Michel dans une traduction de Philippe Garnier. Et je signale aussi que le premier roman de l'auteur, Le Diable tout le temps, vient également d'être réédité dans une traduction de Christophe Mercier. La voilà. La virgule coup de cœur, vous l'avez reconnu, Thomas Télendre. Je crois que vous avez choisi pour nous un coup de cœur aujourd'hui.
Oui, absolument. Je voulais vous parler d'un roman qui s'appelle, qui a un très joli titre, qui s'appelle Petite pluie, qui est traduit par Nicolas Richard. C'est sorti chez Grasset. C'est un livre qui n'est pas évident, donc tant mieux parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Ce n'est pas évident d'en parler parce que c'est un livre qui est très poétique, très délicat et qui en même temps, pour essayer de faire une transition maladroite, qui n'est pas exemple de douleur. C'est un livre qui commence par parler de douleur. Je vais vous en lire la première phrase. Ils m'ont demandé de décrire la douleur, mais la douleur défiait toute description. Sur une échelle de 1 à 10, elle exigeait une échelle différente. Cette échelle différente, ce sera celle de la poésie. Ce que raconte ce roman, c'est un séjour à l'hôpital, le séjour à l'hôpital d'un narrateur qui soudain ressent, à l'été 2020, donc on est en pleine pandémie, une douleur extrêmement soudaine à l'aine qui va l'obliger à rester à l'hôpital et être ballotté comme ça d'un service à l'autre. Et il se trouve que ce narrateur est poète, écrivain, professeur de poésie. Et c'est comment, finalement, la poésie trouve son chemin dans un lieu aussi peu, a priori, poétique que l'hôpital. C'est un livre qui est magnifique parce que voilà, on chemine de l'analyse d'un poème à un souvenir. Et le livre raconte des choses vraiment, je trouve, très profondes, très belles sur le couple, sur le corps, sur la littérature... Et on vagabonde comme ça avec le narrateur. Et moi, je dois dire que j'ai passé un moment précieux.
C'était un samedi. Je regardais par la fenêtre de mon appartement du 5e dans le quartier de San Judas Tadeo, plus connu sous le nom de la Rudas. J'étais en train de nettoyer le masque de clown de Rordan avec un coton-tige et de l'alcool. Je venais de décrasser un masque de lapin blanc peluche, terrifiant. Avec des petites oreilles roses, des yeux verts et des dents toutes tordues comme celles d'un piranha. C'était son masque préféré. Est-ce que je peux toujours dire « c'est » ? Je sais pas, meuf. J'ai encore l'espoir qu'il revienne, qu'un jour un numéro inconnu m'appelle et que ce soit lui. Qu'il me dise qu'il va bien, que je lui manque, qu'il va bientôt rentrer. Mais ça fait déjà 4 mois. La dernière fois que je l'ai vu, il m'a rapporté tous ses masques et 3 tenues de travail. Il m'a demandé de jeter les fringues à la poubelle et de nettoyer les masques si j'en avais l'occasion. L'occasion, je ne l'ai pas eue. La grossesse m'a explosé tout le premier mois. Ensuite, il n'est pas venu pour son week-end de repos, meuf, l'angoisse que j'ai eue. Je ne sais pas si c'était un mauvais pressentiment ou quoi. Il était censé arriver le vendredi soir, mais il n'est jamais rentré.
Deuxième ouvrage à passer sous les feux de la critique, Mexico Médée de Dalia de la Cerda, publié aux éditions du Sous-Sol, traduit par Lise Belperron. Alors c'est un recueil de 6 nouvelles dans lequel la figure mythologique de Médée débarque pour venir en aide à des femmes confrontées à la violence du narcotrafic, aux disparitions forcées ou au patriarcat à travers un style mêlant humour noir, tragédie grecque et culture populaire mexicaine. L'autrice donne une voix à ces femmes. Deuxième recueil de la Cerda après Chienne de garde, Mexico Médée, se veut une littérature de résistance féministe ancrée dans la réalité sociale mexicaine contemporaine. Céline Duchesnay, un premier regard.
Alors moi j'ai adoré. J'ai adoré pour tout un tas de raisons. D'abord, j'ai beaucoup aimé sa façon de parler d'une réalité qui est donc ultra violente. C'est celle vraiment d'une population qui est aussi bien en prise avec les narcotrafiquants, avec le crime organisé, avec l'abandon de l'État. C'est un livre qui résonne tristement avec l'actualité en ce moment, avec la vague de violence après la mort du chef de cartel à El Mencho dimanche dernier. J'ai aimé parce que finalement c'est quelque on nous décrit une réalité extrêmement violente, mais comme vous l'avez dit, Marie, en y mêlant d'autres éléments qui sont pour le coup de grandes lueurs d'espoir. On n'est pas dans le glauque qui vous glue au pied comme avec l'ouvrage précédent. Là, on est quand même vraiment dans une littérature de combat avec beaucoup de vitalité, de force. Alors, il y a ces éléments mythologiques qui sont tout à fait intéressants dans la manière dont l'autrice s'en empare. Une forme de féminisme diffus, mais qui n'est pas toujours là où on l'attend. On n'est pas sur des clichés du tout, et une présence de la musique extraordinaire qui fait que, en tout cas moi c'est ce que j'ai fait, j'ai passé mon temps à lire ce livre avec à côté de moi les morceaux de musique dont elle parlait pour essayer de voir un petit peu comment est-ce que les deux pouvaient résonner.
Une lecture augmentée.
Ah mais j'ai appris, mais j'ai tout un pan de littérature, enfin de littérature de musique, notamment autour des corridos dont on va reparler, je pense, où j'ai découvert un monde musical que je ne connaissais pas.
Thomas Télande, est-ce que vous partagez l'enthousiasme de Céline Duchesnet ?
Ah oui, d'ailleurs aujourd'hui, on aime tout, mais vraiment, Dalia de la Cerda, non, c'est super. Autre recueil de nouvelles, et peut-être ce qu'on peut dire, parce que parfois les nouvelles, puisqu'on parle de nouvelles aujourd'hui, ça a un peu mauvaise presse.
En France, hein, on n'est pas des grands lecteurs de nouvelles.
Ça a la réputation de passe-vente, voire d'être presque un repoussoir pour les lecteurs. Donc, celles et ceux qui auraient besoin d'être peut-être rassurés, Mexicomédée, c'est vraiment un recueil de nouvelles, mais qui tient très ferme son fil conducteur. Et donc, on peut, à ce titre, presque lire comme un roman. On peut penser, par exemple, je ne sais pas, pour des recueils de nouvelles, à Fugitive d'Alice Munro, qui est comme ça, pareil, qui avait ce fil conducteur, ou les 11 histoires de solitude de Richard Yates. Et bien, de la même manière, on retrouve Médée qui traverse comme ça les différents textes de ce recueil et qui est en quelque sorte la figure tutélaire de cet ensemble. Alors quand on dit Médée, on pense peut-être un peu à une figure antique, la toge, etc. Alors là, c'est pas du tout ça. Médée, elle arrive un peu comme Kill Bill, pour rester dans Tarantino. Elle arrive donc, je lis par exemple page 14, elle était habillée tout en noir, avec des tresses africaines, ultra sexy, super iconique, la reine du quartier. Donc là, c'est plutôt RuPaul que... On est vraiment c'est une super héroïne. Et sur cette question aussi, peut-être de l'humour, du rythme, ça passe aussi par ça, quoi. C'est-à-dire quelque chose d'ultra contemporain.
Peut-être, Céline, on l'a entendu lors de la lecture de cet extrait, il y a aussi une oralité dans ce style-là. Comment vous le décririez, le style de l'autrice ?
D'abord, elle s'adresse à vous, en tant que lecteur ou lectrice, donc ça crée une proximité vraiment avec l'autrice. Il y a un mélange de styles, il y a beaucoup de langage de rue, il y a la présence d'éléments de culture populaire aussi qui sont très présents. Il y a d'ailleurs un petit lexique à la fin pour toute personne qui ne vit pas au Mexique, pour comprendre tous les termes qui sont utilisés, parce que ce n'est pas toujours évident, même quand on parle bien espagnol. Et alors, ce sont des mots qui sont très très colorés, très fleuris, donc il y a cette langue-là. Et puis, une fois encore, cette présence de la musique qui transpire dans chaque phrase, ou presque, ce qui fait que on est très vite intéressé parce que c'est une musique qui est particulière, et j'aimerais bien en parler. Ce sont donc ces corridos. Les corridos, c'est quoi ? Ce sont des chansons traditionnelles mexicaines, des ballades, mais vraiment de style épique, qui racontent l'exploit d'un héros. Alors apparemment, ça a été vraiment créé au moment de la Révolution mexicaine, donc dans les années 1910-1920. En tout cas, c'est le moment où ça s'est cristallisé. Et après, cette forme narrative chantée a été réutilisée pour, je dirais, les faits divers, et aussi beaucoup pour parler des narcotrafiquants. Donc ça devient des espèces de récits, de figures héroïques, d'hommes pour la plupart, qui ont eu évidemment des vies très brèves, parce que la vie d'un narcotrafiquant, de manière générale, se finit plutôt mal et c'est une vie qui est plutôt courte. Et tous les personnages ont grandi en écoutant ces récits qui sont héroïques, très virilistes. Et on a donc des paroles qui arrivent régulièrement dans le récit. Et puis après, c'est aussi à travers ces paroles qui sont des chansons qui sont quand même où la mort est extrêmement présente. Et ça devient des sortes de faire-valoir des récits, des parcours de vie des personnages que l'on croise, parce que la mort est absolument tout le temps présente, et en chanson, et aussi dans la vie des personnages que l'on croise.
Thomas Télande, comment la violence qu'on évoquait au début s'incarne-t-elle dans ce livre-là ?
Elle s'incarne justement beaucoup par les situations, mais aussi par la langue. Et je voulais peut-être revenir, moi, sur justement cette oralité dont on parlait, puisque le jeu, c'est un peu d'essayer de trouver des bémols. En tout cas, moi, je me dis que au début, cette langue, moi, elle m'a un peu perturbé. Je me méfie toujours un peu de l'oralité, surtout en traduction. Ça passe pas toujours très bien, parce que ça vieillit pas toujours très bien. Il faut trouver des équivalents. Parfois, c'est un peu maladroit. Et c'est vrai que au tout début, par exemple, je lisais le stress, le flip, le seum. Je me disais, on va voir ce que ça donne. Et finalement, sur le temps long, sur la lecture, pas du tout. Il n'y a pas, on garde pas ce sentiment-là. Et puis, il y a aussi différents registres de langue. Et il y a effectivement différents aspects. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi Dalia de la Cerda est allée chercher Médée. Justement parce qu'il existe un lien entre l'infanticide fameuse et ce pays-là.
Médée qui est donc ce personnage mythologique qui mange ses enfants.
Absolument. Et donc elle revient dans... comme ça, dans ce Mexique contemporain. Donc, en fait, c'est pas du tout ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas une relecture du mythe, c'est pas une transposition du mythe, c'est, en fait, Médée qui poursuit son chemin et qui se retrouve dans le Mexique contemporain. Et elle est dans ce Mexique contemporain parce que, il y a un lien, en fait. Et dans l'ultime texte, on lit, par exemple, « Pourquoi rester dans un pays qui célèbre la mort de ses enfants ? Parce que j'ai aussi vu pousser des fleurs dans la pourriture. » Et ça, c'est
ça. Ça fait une belle transition avec le premier ouvrage dont on a parlé.
Absolument.
Il y avait déjà des fleurs dans la pourriture.
Absolument.
Céline Duchesnay, est-ce que vous diriez que c'est quand même un livre aussi sur la complexité de la maternité ?
Ah mais bien sûr, c'est pour ça que je disais quand je disais que c'était un livre avec une écriture féministe, c'est pas toujours là où on s'y attend, et notamment j'ai trouvé très intéressant la manière dont elle s'empare de la question de la maternité avec le personnage de Médée que vous venez de citer. Donc on comprend bien que le regard de Médée sur la maternité quand on a tué ses propres enfants est assez complexe, et là les personnages, les femmes que l'on retrouve, ce sont des femmes à qui, depuis qu'elles sont toutes petites, où il y a une incitation, où en gros leur seul destin serait de devoir devenir coûte que coûte femme. Et on voit à quel point c'est complexe. D'ailleurs, je crois que c'est dans la première nouvelle où Médée aide à un avortement. Parfois, on choisit de garder son enfant, parfois on choisit de ne pas le garder. Et la résistance n'est pas toujours du côté où on pourrait le croire. Un personnage qui avorte n'est pas spécialement un personnage rebelle, et un personnage qui décide de garder son enfant n'est pas spécialement non plus une femme soumise. Donc c'est ça que j'ai trouvé aussi intéressant, sachant que cette autrice est quelqu'un qui est extrêmement militante, qui fait partie d'une association. J'ai été sur le site de l'association qui parle énormément de l'avortement dans un pays où il n'est, où même si maintenant ça a été légalisé, c'est pas toujours facile, et la durée pour se faire avorter, la durée est quand même très très courte. Donc on sent que à travers ces destins-là, elle montre aussi la complexité de l'existence des femmes, et elle les met pas dans des stéréotypes. Je trouve. C'est ça aussi que j'ai beaucoup aimé.
Mexico Médée de Dalia de la Cerda vient de paraître donc aux éditions du Sous-Sol. La traduction est signée Lise Belle-Perron. Merci beaucoup à tous les deux,
merci
Thomas
beaucoup.
Télandre et Céline Duchesnay, pour vos lectures. Vous pouvez bien sûr réécouter cette émission et toutes les autres sur le site de France Culture. Vous y retrouverez les références des trois ouvrages dont nous avons parlé aujourd'hui sur la page des Midi de Culture.